إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله avec le livre de Nouqayyim concernant l'importance de la science, et on est avec la seconde partie où il montre cela à partir des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a cité les premiers hadiths qu'il a mis dans son livre. Alors, le premier c'était qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bi khayran wa khayran yufaqihu fi ddin. En deuxième lieu, il a cité le hadith « Inna mathala ma ba'athani illahu bihi min al-huda wal-ilm, ke mathali ghaytin asaba ardan, fa kanat minha ta'ifatun tayyiba, qabilatil ma' fa anbatatil kal'ukul ushbal kathir. » Il a fait le hadith. Donc, le premier hadith, c'était le hadith où le Rasulallah il dit « Celui à qui Allah Azza wa Jalla veut du bien, lui fait comprendre, lui donne la bonne compréhension de la religion. » Le deuxième hadith, c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne l'exemple de la révélation comme celle de la pluie. Et il donne l'exemple des cœurs qui reçoivent cette révélation, cette science, comme les terres. Et il a cité trois types de terres. La terre qui retient l'eau et qui fait pousser la végétation autour d'elle. La terre qui retient l'eau et ne fait pas pousser la végétation autour d'elle. Et la terre qui ne retient ni eau, ni il y a de végétation autour d'elle. Donc la première c'est celle des savants, la deuxième c'est celle de ceux qui prennent la science des savants et qui ne sont pas à la hauteur des savants, et la troisième c'est ceux qui ne profitent pas de cette révélation. Ça c'est le deuxième hadith. Et le troisième qu'on a cité, c'est qawlu sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a cité, c'est qawlu rasul sallallahu alayhi wa sallam, li'an yahdi bika Allahu رجل واحد خير لك من حمر النعم. Ainsi Allah Azza wa Jalla il fait que il y a un seul homme que tu puisses yani le guider, hein, tu sois la cause de sa guider, c'est mieux que les chameaux rouges, ou na'am c'est les c'était le meilleur c'était la meilleure qualité de chameau qu'ils avaient de leur temps. Ah, ils avaient une couleur qui tendait vers le rouge. Ah, c'était pas des chameaux qui étaient rouges, mais c'était la meilleure qualité de chameau qui existait de leur temps, et donc ça symbolise ce qu'il y a de mieux côté matériel. Et donc Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, le fait que Allah Azza wa Jalla il fasse que tu sois une raison pour qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans la religion ou qui reviens sur le droit chemin, c'est mieux pour toi que la meilleure des choses matérielles que tu peux avoir dans ce monde. Ou comme a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. On a cité il a cité le hadith où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit: Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an. Wa man da'a ila dalala kana 'alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'an. Donc là, ce midi, celui qui fait da'wa, on da'a ila huda, c'est-à-dire il prêche, da'wa, non ? Pour l'hidaya, il a donc son ajr dans le fait qu'il fasse cette bonne action, il a l'ajr de celui qui va la faire, sans que ça diminue du ajr de celui qui l'a fait. Donc jusqu'au jour du jugement dernier. Et l'inverse. Donc ça c'est quelque chose d'important, dans le sens que celui qui essaie de faire revivre une sunnah, il a l'âge de faire cette sunnah, et il a l'âge de tous ceux qui le suivent sur cela. Et celui qui fait une mauvaise action, il a l'ithme de cette mauvaise action et l'ithme de tous ceux qui le suivent. C'est-à-dire celui, par exemple, aujourd'hui qui fume, il prend l'ithme de fumer de tous les enfants qui l'ont vu fumer, de tous ceux qui l'ont, jusqu'au jour du jugement dernier. Donc il faut faire attention aux actions qu'on fait et au fait qu'on se met dans le contexte d'être de ceux qui font revivifier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout en ces temps où elle est beaucoup délaissée. On est dans un temps de faiblesse de la sunna, de faiblesse de l'islam en général, et encore pire, de l'islam en particulier, c'est-à-dire de ceux qui sont sur le droit chemin. Hein, c'est un temps où la sunna, elle est le ghurba, hein, c'est le ghurba de l'islam en général, et c'est encore une ghurba plus forte de ceux qui sont sur le droit chemin, qui essaient de porter le flambeau de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que cette nation s'est éloignée de la bonne compréhension et de la bonne pratique de l'islam. Et qu'elle a été influencée par, on sort d'une période où on a été colonisé, on a été, donc il y a eu des obstacles déjà, des grands obstacles vis-à-vis de la langue du Coran initial qui est la langue arabe, et qui est un moyen nécessaire pour bien comprendre l'islam. Comprendre l'islam à travers, si on a une autre langue, c'est un obstacle pour bien comprendre la religion, et aussi un éloignement de la bonne pratique, et avec cette colonisation qu'a connue l'ensemble des pays musulmans dans cette période, il y a aussi le fait, le reste de l'héritage, du mauvais héritage, il y en a de tous ceux, de ceux qui ont dévié du droit chemin, et qui a fait que la colonisation a encouragé ceux qui dévient du droit chemin, n'a pas encouragé ceux qui étaient sur le droit, et ça on le voit, dans l'effort qu'ont fait Jamiat Ulama al-Muslimin al-Jazairiyyin, l'ensemble des ulama du temps de Boumbadis, ces années 30-40, et plus, c'est-à-dire que le gouvernement français était plus avec ce qu'on appelle les Touroufiyas, ceux qui faisaient ce qu'on appelle les Erdades, les assemblées des gens, et qui déviaient sur la question du Touhid, sur la question du Shirk, et il entravait l'action des ulama qui voulaient que cette Ummah revienne sur le droit chemin, sur la sunna. Et quand on lit les écritures de Cheikh Boumbadis ou de Cheikh Moubarak Mili, on est étonné qu'à leur temps, ils aient une telle lucidité dans Tawhid, parce que c'était vraiment un temps où il n'y avait pas autant de livres qu'il y a aujourd'hui, où il n'y avait pas autant de sciences, malgré qu'on est aujourd'hui, qu'on considère qu'on est toujours dans une période de faible. Il y avait certains livres, pour eux c'était un rêve de voir, de les voir. Aujourd'hui on les trouve nous facilement. Un grand effort dans la question de l'édition, et des grands savants n'avaient pas des livres qu'aujourd'hui des petits étudiants ont accès à certaines informations que le grand savant n'avait pas. Le livre de Shu'ab al-Iman, de Bayhaqi, le Cheikh al-Albani rahimahullah, il avait suivi Tsahih de Ibn al-Qayyim dans son livre Tuhfat al-Wudud fi Ahkam Mawlud, qui parle des règles concernant le nouveau-né, et donc il a suivi Tsahih de Imam Ibn al-Qayyim du hadith de faire l'Iqama sur l'oreille gauche et faire l'Adhan à l'oreille droite. Et il a dit Ibn al-Qayyim qu'il avait ramené un isnad qui était da'if, et da'if de niveau 1, c'est-à-dire que c'est un da'if qui peut être renforcé par d'autres hadiths. Et il a cité qu'il existe un deuxième hadith de même ordre. Donc si da'if, le hadith n'est pas accepté, dans le domaine des hadiths qui ne sont pas acceptés, c'est-à-dire les hadiths da'ifa, il y a deux degrés. Il y a un degré où, si on trouve deux, s'il y a deux chaînes qui sont de même ordre et ils sont dans da'if, ils peuvent se rajouter. Et le fait qu'ils se rajoutent dans la force, ils emmènent le hadith vers ce qui est acceptable. Comme on a dit la dernière fois, c'est le domaine où c'est un petit peu sensible, c'est la limite entre ce qui est acceptable et ce qui n'est pas dans le hadith. Et donc on voit que Cheikh Albani, de son temps, il ne pouvait pas vérifier, parce que l'Ibn al-Qayyim, il a dit, le deuxième isnad, il est dans Shu'ab al-Iman al-Bayhaqi, il n'y avait pas ce livre-là, de son temps. Et après, j'allais dire 10 ou 20 ans, 30 ans après, quand c'est sorti, Cheikh Albani a vérifié le deuxième hadith, Le deuxième isnad, il a trouvé qu'il est dans le da'af qui ne sert à rien. C'est-à-dire que le hadith, il était da'if et c'est pour ça qu'il est revenu sur le tasahih de ce hadith. Donc j'ai donné cet exemple pour montrer que on a une grande ni'ma aujourd'hui dans la question de fait de l'édition des livres, et c'est l'occasion pour beaucoup de faire un effort dans le fait de propager la sunna, et ce hadith il vient dans le sens d'autres hadiths, parce qu'il faut comprendre les hadiths toujours dans leur contexte et dans l'ensemble de la sharia. Il vient dans le sens du hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Mais sunna fil سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. Donc la sunna hasana c'est le huda, hein, qui est cité dans ce hadith, nanda ila huda, parce que les hadiths se vont dans le même sens de l'explication. Et le hadith ne veut pas dire, comme le comprennent certains, من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة, parce qu'il n'y a pas de bid'a hasana. Hein, Rasul صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. Ça, c'est une utilisation du terme كل بدعة, dans le sens où c'est général. Il n'existe pas dans la religion de bonnes innovations, comme a dit l'imam Malik. من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن Rasul sallallahu alayhi wa sallam khana risala, comme l'imam Malik dit, celui qui dit qu'il y a dans la religion une bid'ah hasana, il est en train de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas bien transmis le message ou n'a pas été à la hauteur dans la bonne transmission du message. Et ça, c'est quelque chose de grave. Et autour de nous, on trouve beaucoup de gens qui se prétendent malikites quand il s'agit de faire la prière ou de faire certains sunnans de l'ibadah. Mais quand ils arrivent à cette question, ils changent de registre. Et ça montre le fait qu'on n'est pas sur la droiture. Ça, c'est un des signes. Quand il est sur le droit chemin, il a des règles qu'il suit d'une façon continue. Il n'y a pas de poids et de mesure. Il n'y a pas une règle que je peux appliquer sur certains ulama et que je ne peux pas appliquer à d'autres. Je peux dire l'imam Malik qui peut se tromper, l'imam Shafi'i, tous les grands ulama, ils peuvent se tromper, sauf le cheikh que j'aime bien. À celui-là, il ne faut pas qu'il se trompe. Et on ne se rend pas compte du fait de dire que l'imam Malik s'est trompé sur une question. Ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi facile, parce que quand on essaie d'aller dans le fond, on comprend que c'est des grands ulama, et le fait de comprendre leur erreur demande aussi des bagages et une connaissance assez profonde. Et on rentre dans ce domaine, dans le sens avec une telle facilité des fois de dire que des grands savants comme ceux-là se sont trompés. Et il te dit ça, ça fait partie des règles importantes du fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on ne considère pas qu'il y a une personne qui a le statut ma'asoum, je ne sais pas en français, il est préservé de l'erreur. Il devient un saint, une sainteté scientifique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se tromper sur n'importe quel, sur tous les avis qu'il avance. Celui qui croit que son chef, il a ce degré-là, il a un problème dans le ménage de lui-même, même s'il se prétend suivre la sunna. Parce que nul n'est à l'abri de l'erreur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam Malik, il a dit, « Kullun yu'khadu minhu wa yutrak » et la sahib al-qabr, tous s'en prend d'eux et on laisse, sauf celui qui est dans sa tombe, et il a monté la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, il faudrait qu'on le fasse pratiquer, parce que c'est tellement fait, tellement ils aiment cette injure qu'ils rentrent dans sa sainteté, pas par le fait qu'ils le disent directement, mais par le comportement qu'ils font. Et quand tu leur dis, bon, ton chef, tu ne peux pas avoir une idée sur la possibilité qu'il fasse une erreur sur tel ou tel, il n'a pas ça. C'est-à-dire que quand il s'agit du chef qu'il aime bien, il n'a pas en tête la possibilité, il ne se met pas cette éventualité qu'il puisse faire une erreur sur une question d'autre, ou qu'il se réserve sur certaines questions où il y a beaucoup de polémiques, où il y a beaucoup de savants qui l'ont contredit, etc. Donc ça, il faudrait qu'on puisse vivre le droit chemin, en principe, dans la façon avec laquelle on est en train de suivre. Quand on cite un principe, il faut y aller au bout. Ça montre qu'on est sur le droit chemin et on n'a pas de poids et de mesure. On ne fait pas de poids et de mesure, ça c'est des règles qui sont immuables. On est porteur de vérité, on dit que c'est ça le chemin. Faudrait qu'on suive la vérité, qu'on suive la vérité, qu'on ne suit pas la vie des hommes. Et dans cela, il y a des exagérations, soit dans un sens pour ceux qui ne respectent pas les ulémas, soit dans l'autre qui donne trop d'importance au alim qu'il aime bien. Et telle sorte qu'il ne considère pas, qu'il accepte mal le fait que tu lui dises qu'il peut se tromper sur cette question, et il considère que tu ne le respectes pas. Au contraire, le fait de ne pas suivre un alim sur une erreur que tu penses être une erreur parce que tu as entendu un autre savant qui l'a critiqué, que tu es convaincu par notre avis, c'est un respect à tous les savants. C'est le respect qu'il faut pour les ulémas. Sinon, là, tu es en train de le mettre à un degré qu'il ne faut pas. Et ça, c'est une règle qui est immuable. Et le fait de dire sur certaines questions, comme se plaît certains de nos frères, il vient sur une question ou sur un jugement et tu dis non, les ulémas, ils ont dit. Le mot les ulémas, il faut bien le peser. Ça veut dire que c'est un consensus que tu es en train de nous avancer. Et consensus, il faut prouver. Et c'est pas facile. Et les ulémas qui ont été avant, il y en a parmi les règles qui... Que, c'est un autre site, des fois. Il te dit, oui, celui qui prétend qu'il y a un consensus, mais il y a un fawakadim. Il te cite, il y en a une des paroles, les Wama Adrawan Nas, avant tout, ne se sont pas, n'ont pas divergé sur cette question-là. Donc le fait de dire le mot, utiliser un mot dans un ordre général de consensus, c'est-à-dire que tu es en train de bloquer la conversation. Quand tu arrives à une question et tu dis à ton frère, les ulamas, ils ont dit comme ça. Ça veut dire que lui, soit il est contre les ulamas, donc il sort du ménage, celui qui est contre, c'est fini. Une des règles principales du fait de suivre le droit chemin, c'est de suivre les ulamas. Et deux, s'il y a divergence entre eux, de prendre un choix parmi ce qui nous est produit par les ulamas. Mais on n'a pas le droit de produire un autre choix. Nous, on suit ce, parmi ce qui nous vient des ulamas, ce qui nous paraît le plus proche de la vérité, avec ce qu'on a comme bagage. Allah Azza wa Jalla yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. C'est l'insan, l'ami, c'est vrai qu'il n'a pas assez de bagage pour aller dans la profondeur des questions, mais il a certains critères avec lesquels il peut jauger le fait de suivre tel ou tel alim. Il pense que tel alim est le plus proche, le plus fort dans ce ilm que d'autres, que par rapport à d'autres alim. Il a ses critères, et avec ces critères-là, il suit la vérité selon ce qu'il a comme possibilité. Et Allah Azza wa Jalla ne nous demande pas de faire des choses qui dépassent notre capacité. Et donc ces règles-là, il faudrait bien, quand on veut savoir si certains ne sont pas dans le droit chemin, il faudrait, ou se trompent sur certaines questions, il s'agit que d'appliquer les règles, mais d'une façon stricte, et de bien, et de prendre du recul. Pour voir, parce que certains, si on veut présenter la chose des fois, certains, ils commencent et tu dis, voilà, la maison dit, pour te fermer un petit peu la porte et pour t'imposer un avis, alors que c'est pas autant vrai, il faut prendre du recul, vraiment écouter, s'il y a d'autres avis, de gens qui sont à la hauteur pour pouvoir arriver à dire qu'il y a un consensus. C'est pas aussi simple de démontrer qu'il y a un consensus, et aussi il faut faire attention aux déductions qui sont faites. Jean-Linsen, il amène une question, il dit donc, ça veut dire cela, et c'est pas toujours vrai. Il y en a qui font des déductions, c'est-à-dire il te dit, si tel alim dit cela, donc on peut en déduire cela, et il n'a pas le droit de faire ses déductions. Comme ils disent les ulama al-usul, lazimul madhhab laysa bimadhhab. Ce que tu penses, Yannick, que c'est une déduction, si le savant ne le dit pas que c'est vraiment ce qu'il veut dire de cette parole-là, tu n'as pas le droit, toi, de déduire, de dire voilà, puisqu'il a dit ça, donc il veut ce sens-là, parce qu'il peut exister un autre sens qu'il veut et que toi tu ne connais pas ou tu ne sais pas. C'est un petit peu de citer, parce que si on a suivi cette religion, c'est sans contrainte, parce qu'on est. On croit que c'est la vérité. On sait que, Inch'Allah, le fait qu'on suit ce chemin, c'est pas pour plaire aux gens. C'est pas pour suivre ce qui est la vague de ce qui est Shohra, comment on dit Shohra en français? Shohra, ce qui est connu le plus, mais une mode, une scène, bien sûr, ne pas être contre le courant général, il est difficile. Déjà, le fait de suivre la sunna, c'est un petit peu, on est un petit peu contre le courant. Alors, si on est dans le courant de la sunna et être contre un certain courant qui paraît avoir en général, des fois, l'insani, il se dit, voilà, moi, je suis cela, alors qu'il, peut-être qu'il est en train de voir la vérité ailleurs. La vérité, elle est au-dessus du fait de chercher, le fait de plaire aux gens, ou de plaire à certains frères, ou de plaire à certains chefs, etc. Il faudrait essayer de chercher le fait de plaire à Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal nous fait les petits lèvres. Certains, ils te disent, mais les fitna dans lesquelles on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une fitna. Allah Azzawajal, il est en comme il veut. Et le fait de dire qu'on suit la vérité n'est pas aussi simple. Et des fois, on voit certaines vérités, mais on essaie de le, pour éviter certains problèmes ou pour éviter certaines critiques, on essaie de, c'est-à-dire de ne pas trop montrer ce qu'on pense et les questions qu'on a sur tel ou tel sujet. Et ça fait un recul, yani, dans le sens que il n'y a rien, il n'y a aucune contrainte digne, il n'y a personne qui te contraint à suivre ce chemin. C'est des règles qu'on a à suivre. Soit on suit ces règles-là, soit celui qui ne le suit pas n'est pas sûr. C'est le chemin. Pourquoi tu fais deux poids et deux mesures, hein? Pourquoi quand il s'agit de sûr que tu aimes bien, tu as un traitement, et que pour d'autres jours tu as un autre traitement. Ça montre qu'on n'est pas juste dans ce qu'on suit. Qu'il y a un problème de sincérité ou un problème, bien sûr, de manque de science et de vision de la vérité. Je parle de cela parce que certains te disent, oui, tu es en train de parler de science et il faudrait avoir des références, ce qui est tout à fait vrai. C'est-à-dire dans notre vie dans laquelle on est, si on est poussé à parler, c'est qu'autour de nous, il y a vraiment un vide. Et si on cherche du haut niveau, on ne fait aucun effort. On essaie de faire l'effort qu'on fait actuellement, de transmettre de remplir notre rôle. Bien comme il faut transmettre ce que disent les savants. Bon, à partir du moment où certains disent qu'on dévie, qui nous montre nous, on cherche que la vérité, Inch'Allah. Si on n'est pas l'autre, si les gens sont obligés, peut-être on est content. Si on est sur l'erreur, il y a plus. Et tout ce qu'on est en train de citer, il est enregistré, et on n'a pas eu une seule critique depuis le début, Inch'Allah, montrez-nous, vous voyez l'erreur. Non, on cherche que la vérité, Alhamdoulilah, Inch'Allah, on n'a pas des ornières, yani que c'est pas en partie qu'on essaie de c'est-à-dire de avoir raison à tout prix, ou on cherche la vérité. Et si on s'est avancé à dire, c'est parce que bon, il y a d'autres qui n'ont pas les bagages que t'as, c'est tout. Genre, le fait de maîtriser même moyennement la langue arabe, c'est quelque chose de désirable en France, yani on trouve peu. Maîtriser les deux, c'est encore, ça demande. Il y en a qui maîtrisent bien la langue arabe, mais ils ne maîtrisent pas le français. Il y en a qui maîtrisent bien la langue arabe et le français, mais ils ne sont pas dans le ménage, ils sont dans un autre, j'allais dire, délire. Ça fait quand même plus de... Depuis qu'on a connu cette religion, ça fait plus de 30 ans, depuis qu'on a commencé la prière à 14-15 ans, j'allais dire, ça fait quand même plus de 30 ans qu'on essaie d'être sur le droit chemin, et depuis qu'on a commencé, Inch'Allah, depuis qu'on a connu en Algérie Cheikh Albani Rahimahullah, à travers ses cassettes depuis les années 80, puisqu'on a qu'on essaie de combattre et d'essayer de rester sur le droit chemin, parce que dans ces temps-là, le fait de citer Cheikh Albani, c'était grave. Quand j'étais à l'université, on était deux, je parle en 83, c'est-à-dire on était deux qui disaient qu'il faudrait qu'on fasse le fiqh autre que sur le fait de suivre le Khulas al-Fiqhiyya, c'était un livre d'Al-Malikiyya qui était le résumé des avis malikites sur la façon de faire la prière, wudu, etc., sur le fiqh. Nous on a dit non, il faudrait qu'on essaie de prendre comme référence la même mina en ce temps-là, qui était la critique de Cheikh Albani sur le livre de Fiqh Sunnah, qui présentait le fiqh avec l'Adela, et ça a fait un remous au niveau des étudiants où on était, des étudiants qui étaient où on était, ils disaient oui, qu'est-ce que c'est que ça. Et c'était le temps où il y avait aussi propagé le livre de Cheikh Al-Bouti qui disait que la madhabia akhtar al-umma islamia, le fait de ne pas suivre la madhab, c'est le plus grand danger sur la nation musulmane. Donc il y avait une pression forte contre Da'wa Salafia, je parle des années 80, et de telle sorte que c'était pas aussi simple dans ce temps-là, et on était obligé, même si on voulait se désintéresser, on ne pouvait pas, parce que la pression, elle était tellement sur... Dès que tu as lancé, Cheikh Albani l'a dit, et tout le monde, il te tombe dessus. oui, qu'est-ce que c'est que ça? Il a dit ça, ça fait toi ce que ça. Donc tu étais obligé, tu étais poussé par ce qui t'entourait déjà à être blindé sur tes questions, à bien comprendre. Mais tu ne connaissais pas la langue arabe, tu étais obligé d'apprendre bien la langue arabe et de traiter ilm al-hadith et de traiter cette langue, parce qu'en face de toi, tu avais toutes les intellectuels que tu avais en face de toi, ils étaient contre. Dans la salafia en elle-même. Hein? C'était un petit peu, tu sais, c'était Saïd Qodb, le fait que c'était Fiqh al-Maliki, les idées qu'il y avait, on est vraiment loin de comprendre Dawa Salafia, alhamdoulilah, du côté de l'Ouest d'Algérie, là où on a eu le privilège d'assister au cours de l'école Ouest, je parle du côté de Bebzouar, l'école qu'il y avait concernant le Hajj Omar, concernant l'Ouzani, etc. C'est tous des docteurs en charia aujourd'hui, auxquels on a assisté à leur cours. Et à leur tête, Cheikh Abu Abdurrahman Mahmoud, auquel on a assisté à ses cours concernant Ilm al-Hadith du temps, le Bayqouniya, où on a eu l'occasion de discuter, c'est-à-dire qu'on a pris une relation soit par des cours, soit aussi par le fait qu'il y a toujours les échanges, qu'on suivait les Jumu'ah, Cheikh Abdelhamid, etc. Je sais ces références-là parce que certains, ils osent poser les questions sur certains frères qui avancent à expliquer certains livres qui sont assez compliqués pour eux. Si c'est compliqué pour toi, si je me suis avancé, c'est que j'ai pris une responsabilité et je pense être à la hauteur de cette responsabilité. Et si jamais je me trompe sur ces questions, ben montre-moi aussi mes erreurs. Moi, j'aimerais bien ce qu'on a dit depuis le début. Et au lieu de poser la question sur le fait que tel ou tel n'a pas de chouyour alors que tu ne connais pas, il faut mieux présenter ce que tu penses comme erreur et ce que tu dis, voilà, ce qu'il a dit là, c'est contraire au minhaj ou c'est contraire à ce qu'ils disent les ulama, mashallah. Nous, on est là pour essayer de suivre la vérité. Et on écrasera notre nefs, inshallah, quand on se pose une question, on pensait que c'était ça, j'avais entendu Cheikh Al-Bani dire ça. Même, ça dit, depuis 30 ans, on a écouté plus de 400-500 cassettes à Cheikh Al-Bani, rahimahullah. Donc, des fois, on parle, on pense que c'est ce qu'il a dit. On a lu peut-être pas mal de livres. C'est peut-être qu'il y a certaines idées qu'on pense que c'est la vérité, que ce n'est pas. On est très content de voir des gens qui nous critiquent dans le sens de nous montrer ce que c'est la vérité, sans aller trop dans le jugement. D'ailleurs, le jugement de certains nous importe peu. Si on suit la vérité, si moi, je suis convaincu que je suis sur le droit chemin, je le fais pour Allah Azza wa Jal. C'est tout. Et là où je vois qu'on n'est pas sur le droit chemin, on n'a pas à le suivre. Parce que c'est pas le jugement des gens qui va te sauver le jour du jugement dernier. C'est le fait que tu aies suivi la vérité ou pas. C'est le fait que tu as fait quelque chose pour plaire à Allah Azza wa Jal. Alors si je vois que cette vérité, des fois, dans ce que dit certains chouyour, c'est l'erreur par rapport à ce que dit d'autres chouyour, je suis là où la vérité apparaît. J'ai donné ce conseil, c'est d'ordre général, mais je ne peux pas me retenir de traiter certaines questions qui sont peut-être d'actualité, et qui, c'est le conseil que je porte pour moi-même et pour mes frères, et j'espère que qu'à l'avenir, Yannine Dawel se porte aussi bien qu'elle nous supporte aujourd'hui. Hein, parce qu'il y a beaucoup de casses, il y a beaucoup de casses hein, dans le da'wah, dans le sens que certains n'appliquent les règles de la da'wah que quand ça les arrange, et quand ça va dans le sens qu'ils veulent. Et ça, c'est injuste. Si tu mets une règle, tu la mets d'une façon, elle est valable pour tout le monde. C'est pas parce que le jour où ça se retourne contre toi, tu essaies de le trouver une sortie. Hein. J'ai trouvé quelqu'un une fois, et il me dit, oui, il faut pas... Je donne un exemple. Hein, il me dit, oui, on ne peut pas prendre les textes de ceux qui sont considérés comme innovateurs. On ne peut pas prendre un des textes qu'ils ont écrit, même s'ils ont écrit quelque chose de vrai. On ne peut pas les prendre comme... on peut pas prendre comme exemple ce qu'ils ont écrit, quel qu'il soit. Je lui dis, tu es sûr de cette règle? Il me dit, oui. Je lui dis, c'est sûr, à 100%. On ne prend pas... Il me dit, oui, c'est sûr. Je suis sûr de moi. D'accord. Je lui sors un livre d'un de ses chouyours préférés, qui est aussi nos chouyours. Hein, ça ne veut pas dire que ce n'est pas nos chouyours qu'on dit comme ça. On n'est pas en train de... Ça, c'est une question de nez, c'est une question de... j'allais dire, de méthodologie. Si tu suis une règle, tu es obligé d'appliquer cette règle, quelle qu'il soit. Tu as une formule, c'est quel que soit X. Alors, s'il y a une exception, il faut bien la montrer, cette exception. Hein, l'ilm, c'est une méthodologie qui est universelle. Yani, on n'a pas... Hein, si tu mets une règle générale, elle est générale. Pourquoi tu veux la en particulier? Je lui sors et je lui dis, voilà, là, ça c'est un des trucs que tu aimes bien, que tu veux pas. Et là, il dit, qu'est-ce que c'est le Foulen ? Qu'est-ce que c'est ? Il me dit, t'as mal compris. Subhanallah, l'adim, comment j'ai mal compris ? Là, on est dans un contexte, c'est bien écrit, qu'est-ce que c'est ? Et j'ai pas besoin d'un bagage important dans la langue arabe pour comprendre que là, c'est une démonstration avec ce qu'a dit. Non, il me dit, t'as mal compris. Bon, alors je lui dis, d'accord. J'étais dans la téléphonie, j'avais des cartes téléphoniques. Viens mon frère, on va appeler le cheikh directement, c'est moi qui l'appelle. Je l'ai appelé, bah, salam alaikum, cheikh, kada kada, mashallah, etc. Voilà. Je lui dis au frère, j'ai servi parce que c'est un cheikh, on a un respect. Donc, ce respect, c'est une règle générale, on a un respect à tous nos cheikhs. Donc voilà. Et j'ai passé le frère, puis il a commencé, il se présentait, oui, il est tardé parce que bon, ça coûte de l'argent quand même d'appeler. Voilà. Moi je m'inquiétais pour ma carte. Mais bon, c'est pas grave, je lui dis, laisse-le dans son plaisir. Et il se présente au chef, je lui dis, vas-y, pose la question. Et il pose la question, et je ne lui réponds, il lui dit, ah non, ce que j'ai fait là, c'est dans le sens que, wa shahid, shahidun min ahliya. C'est-à-dire que ça, c'est déjà montré. À travers les écrits de ceux qui, je ne sais pas en français comment dire, c'est-à-dire que, non. Voilà, c'est un témoin de parmi eux à témoigner. Ben les autres savants, ils font quoi? Ils ramènent des textes, même des témoins qui sont de parmi ceux qui descendent, qui ne sont pas sur le droit chemin pour montrer la vérité à ceux qui les suivent. Ou... Il m'a dit non, ça c'est dans le sens de, c'est, comment tu as dit, c'est un témoin de... Oui, mais ça veut dire qu'on peut. Donc la règle n'est pas générale. Après, je vais le faire, je lui dis, tu vois. Il m'a dit, non, le chef, il a dit comme ça, ça veut dire que c'est bon. Ce qu'il a fait, ça veut dire que le gars, il avait quoi? Il avait un problème dans son raisonnement, dans sa méthodologie. Donc le chef lui a dit, là, on peut. Il a suivi, on peut. Il a laissé tomber la règle générale qu'il a dit qu'il ne faut pas. Et là, ça veut dire qu'on n'est plus dans le suivi des règles, mais dans les suivis des personnes. Parce que la personne lui a dit, c'est bon, on peut yani, montrer certains textes de certains gens qui sont considérés comme étant dans le bid'a ou mubtadi'a pour certains, et qui sont, on peut utiliser des textes là où ils disent certaines vérités, mais bon, shahid shahid min ahliya. Donc la règle, elle n'est pas générale. Et c'est sûr que quand on transmet certains textes de gens qui sont sujets à critique, bien sûr, il faudrait toujours dire aux gens qu'il faut faire attention. Là, ils ont dit cette vérité, mais ça n'empêche que quand il est nécessaire de le montrer, ou quand on voit que ceux qui l'écoutent autour de nous risquent de tomber dans l'erreur. Voilà. Rabbi Oufkna, voyez comment on fait. Ça, c'est d'une façon générale. Et ça, c'est des comportements. Vous voyez devant moi quelqu'un qui se disait c'est la fille, qui se disait je suis ménage, mais je voyais en lui, yani, c'est un petit peu la sainteté d'une certaine chose, yani, c'est presque de l'idolâtrie, yani, c'est une idole pour toi, ça ne devient plus le fait de chercher la vérité, de prendre du recul, d'essayer d'écouter les autres côtés, non, c'est chez subhanallah al-adim. Qu'est-ce que c'est que cette da'wa salafia, hein, qui est basée sur le culte de la personne, le culte de tel ou tel chef, quel qu'il soit, yani, c'est ce qu'on a appris. Rabbi ufqna wa iyyakum. J'essaie de parler dans un cadre général de la da'wa, dans le sens que ceux qui veulent critiquer ce qu'on est en train de dire, qu'ils amènent un petit peu, qu'ils nous montrent là où il y a l'erreur, parce que c'est ce qu'on a compris dans le sens de ce ménage, des ulama qui nous ont appris cela depuis des années et des années. Qu'il ne faut pas avoir une référence à ce chef. En Algérie, on avait tellement on écoutait Cheikh Albani pour nous. La femme qui avait ses règles, elle pouvait rentrer à la mosquée, ça ne posait pas de problème, parce que c'est ce qu'on pensait. Et tous ceux qui disaient à un certain moment, je parle entre les années 80, 90, etc., on pensait que c'était ça le sunnah. On ne savait pas que l'école d'Al al-Hijr, c'était pas assez fort. Et quand l'invité d'Al al-Hijr était venu, c'est en force avec les étudiants qui sont revenus, ben, tout le monde il a appris à respecter les avis des savants, hein, et essayer de respecter surtout la vérité, de ne pas aller à l'extrême. Considérer comment Cheikh, puisque moi j'écoutais depuis 20 ans ou 30 ans, j'écoute Cheikh Rabbani Rahimahullah, et ben je force ses avis, et celui qui ne suit pas ses avis, il n'est pas fulminé. Non, ça c'est d'exagération. On doit aimer nos chouyours, mais ne pas exagérer dans l'amour qu'on leur porte, et ça peut dépasser certaines C'est une limite. Hein? On a respecté. On doit respecter. On aime nos cheveux en respectant l'ensemble des cheveux. Et respectons nos frères, des fois, qui peuvent ramener des avis contraires à ceux dans lesquels nous, on a une conviction, peut-être une conviction qui est forte. Mais on a respecté, parce que le principal, c'est qu'on suit des règles générales de la terre. Voilà. Et ça, c'était, à un certain moment, il y avait des dérives dans ceux qui venaient de l'école du Yémen, Cheikh Moukbil, ou de l'école saoudia, de Chouf qui était là-bas d'une façon générale, ou l'école Cheikh Albani, qui était une des premières écoles et qui a fait, c'est-à-dire, qui a le plus adepte en Algérie, c'est-à-dire, de son temps-là, parce qu'il y avait plus les casettes à Cheikh Albani que d'autres. Il y avait plus un effort, hein, en début, et cela n'a, ça n'a pas empêché de rester la fille d'avancer, hein, mais le problème, il est dans le sens que beaucoup, mon frère, ils ont une appartenance des fois intellectuelle à ce ménage, hein, et qu'il y a un manque dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la morale, dans le cadre du respect, dans le cadre du fait de patienter quand on écoute un frère, même s'il n'a pas le même avis. Il a son cœur qui essaie, il n'accepte pas d'écouter les autres avis qui ne veut pas. Et des fois même, il prend ses frères qui ne suivent pas cet avis, il va jusqu'au point de, j'allais dire, où ça devient de la raillerie ou de la moquerie. Donc on revient dans ce sens-là, on a dit que le hadith, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Min da'a ila huda, ça va dans le sens du hadith, il dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Aman sunna fil islam sunnatan hasana falahu ajrua. Et on est dans ce temps, ça veut dire que celui qui fait revivre une sunna que les gens ont oubliée, il a son ajr et l'ajr de ceux qui l'ont suivi. Jusqu'au jour du jugement dernier, espère pour moi et pour vous qu'on soit parmi ces gens qui vont dans le sens d'essayer de faire revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith qui cite après, c'était la hasada ila fitnatayn. Le mot hasad, je ne sais pas si c'est exactement la jalousie qui y va. Et on a récité qui est dans son sens. On avait cité la dernière fois qu'il y avait deux types de jalousie. Le fait de voir, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a que deux choses qu'on peut envier aux autres. Hein, c'est le fait que Allah Azza wa Jalla leur donne beaucoup d'argent et qu'ils l'utilisent dans le khir, tellement qu'ils l'utilisent, qu'ils le dilapident dans le bien. Hein, qu'ils cherchent vraiment l'ajr et que malgré les grosses sommes qu'ils ont, ils mettent une grande partie dans le fait de vouloir de le dépenser dans le bien. Hein. سلطه على هلكته في الحق يعني وجنته الله المال فسلطه على هلكته في الحق هلكته c'est-à-dire qu'il le dilapide dans le bien في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Donc c'est des choses qu'on doit envier aux autres. On ne doit pas l'envier le fait qu'il soit fort يعني corporellement ou que c'est des grands bagarreurs ou que c'est des bons joueurs. Ça, Din Ta'ala ne nous a pas demandé d'envier ces gens-là. Il nous a donc demandé d'envier les gens qui font les bonnes actions avec leur argent et ceux qui ont la science et qui la propagent aux autres. Ça, c'est quelque chose, ça devient, c'est les pôles d'intérêt auxquels on devrait s'intéresser. Hein. Les idoles qu'on a parmi notre jeunesse aujourd'hui, c'est plutôt, on ne peut pas trouver un jeune qui ne connaît pas certains noms connus du football, du monde du football. Mais si tu peux leur citer certains noms de grands imams, de nos plus prédécesseurs, il peut ne pas connaître. Hein, des noms peut-être de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne connaît pas. Et ça montre le niveau de faiblesse dans lequel est notre nation. Ibn Qayyim continue sa démonstration dans le sens de montrer l'importance de la science. En citant le hadith que cite Imam Tirmidhi, حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا سلمة بن رجاء حدثنا الوليد بن جميل حدثنا القاسم عن أبي أمام الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره ليصلون على معلم الناس الخير. Donc dans ce hadith, c'est un hadith qui est Hassan yani li ghayrihi, c'est-à-dire c'est un hadith qui comporte une chaîne où il y a certaines faiblesses et qui est renforcée par un autre. Hein? Donc c'est un hadith yani, qu'on peut utiliser. Et donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, hein, on lui a cité quelqu'un de savant et quelqu'un qui était, qui faisait beaucoup d'adoration, qui était un bon pratiquant concernant l'adoration. Ils ont cité quelqu'un qui avait un bon bagage dans la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commenté cela en disant que le fadl, en français, c'est le mérite. Le mérite du savant, fadlul alim, alal abid, sur l'adorateur, si on peut dire. Hein? C'est ça, le abid. Je pense que le savant sur l'adorateur, c'est comme le mérite que j'ai par rapport au plus faible d'entre vous. Mais ça, c'est une grande... C'est-à-dire que la distance qu'il y a dans le mérite entre le prophète et le plus faible des compagnons, c'est la distance qu'il y a entre le savant et celui qui est... C'est-à-dire qu'il se concentre dans l'ibada. Quand on dit quelqu'un il est adorateur, il se concentre dans l'ibada, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait les prières obligatoires, surrogatoires, qui fait le jeûne surrogatoire, que c'est quelqu'un qui est assidu dans sa pratique. Hein. Mais il n'a pas beaucoup de bagages dans la science. Il y a en face à lui quelqu'un qui fait peut-être les choses qui sont obligatoires, hein, parce que ça c'est nécessaire, et qui fait de l'effort, yani, dans le fait d'apprendre la science et de la propager. Et il a dit, celui qui apprend la science et qui la propage, il a plus de mérite que celui qui pratique. Parce que celui qui pratique, il pratique pour lui-même. Et celui qui prend la science et qui la propage, il la pratique pour lui-même et pour les autres, et c'est dans le temps. C'est-à-dire, ce qu'il apprend aux autres, il apprend un bien pour les autres, et ce bien, quand il l'apprend, les autres, et quand il pratique, il prend avec eux l'ajr, et il prend l'ajr de ceux à qui les autres, ils ont, c'est une chaîne jusqu'au jour du jugement. D'aller, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend l'ajr avec tout le monde. C'est pour ça que Ibn Qayyim, là, il a bien cité le fait que celui qui combat la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de combattre l'intérêt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son intérêt, c'est dans la bonne pratique des musulmans. Plus les musulmans yani, sont dans l'ajr, plus lui, il a aussi l'ajr avec eux. Donc il a dit, celui qui combat la sunna, il est en train de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il fait obstruction à la bonne pratique de la religion qui fait qu'il y ait l'ajr pour celui qui la pratique et pour celui qui l'a appris en premier lieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ici, Ibn Qayyim, il dit, « وَقَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ » Il dit que Allah Azza wa Jal, ses anges et ceux qui habitent les cieux et la terre, « يُصَلُّونَ » En arabe, on a le fait, il prie sur celui qui apprend aux gens le bien, le khair, la science. La prière d'Allah Azza wa Jal sur ses adorateurs, c'est quoi le sens? Sana, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salat, c'est la prière d'Allah Azza wa Jal sur son prophète, quand on dit sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on est en train de dire que Allah Azza wa Jal fait l'éloge du prophète. C'est le sens le plus fort. Et pour les autres, c'est le fait qu'il fait des sens à miséricorde. Hein? Et les autres, c'est qu'ils demandent à Allah Azza wa Jal, les anges et tous les autres créatures yani, qui prient pour cet homme de science qui propose sa science, c'est qu'ils demandent à Allah Azza wa Jal qu'il fasse des sens à miséricorde sur cet homme-là ou qu'il le yani, qu'il fasse qu'il est atteint par sa miséricorde. Ibn Qayyim l'a dit, il dit, تعليمه للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم، جزاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته والأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه. Donc comme lui il a cherché le bien pour les autres, Allah Azza wa Jal il a fait de telle sorte que qu'il ait aussi la même chose de la part d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il lui facilite le chemin du salut comme il a œuvré pour le salut des autres. Et donc, comme dit le frère là, le sens de Salat, c'est le fait qu'il fait descendre sa miséricorde sur ce savant, le fait aussi qu'il fasse l'éloge, que la Azza wa Jalla les cite parmi les anges, ça peut être aussi un sens qui, parce qu'il est cité dans le hadith, hein. ما سمعكم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا سيكون السيد بسويد الحديث حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Donc ça peut être dans le sens que tu as cité. C'est la raison lorsqu'il a créé Adam, les anges ont posé cette question, تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفكوا الدماء. Donc Allah Azzawajal le rappelle le fait que voilà, ceux, vous avez dit qu'ils vont faire le mal sur terre, écouler le sang, regardez mes adorateurs, ils sont en train de m'adorer, de se rassembler dans la mosquée pour apprendre din, pour. Donc ça, le fait que, comme a dit le frère, il fait l'éloge, de ses adorateurs. J'aime pas le mot serviteur, malgré que certains fassent cette traduction, parce que tu dis serviteur d'Allah, il y a un sens quand même qui. Parce que service, ça peut induire un sens de besoin. Enfin, serviteur, ça veut dire que tu as des besoins, que le serviteur, il est là pour les faire. Allah Azza wa Jalla, on ne peut pas donner ce sens à Allah Azza wa Jalla. Donc, adorateur, ça me paraît plus proche. Parce qu'à chaque fois que j'entends serviteur, bon, on comprend le sens. Mais il reste quelque chose dans le cœur, on se dit peut-être qu'il vaut mieux éviter ce mot-là, Allahu A'lam. وأيضا فإن معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين ربي وأحكامه ومعرفا لهم بأسمائه وصفاته جعل الله من صلاته وصلاة أهل سماواته عليه ما يكون تنويها به وتشريفا له وإظهارا لتناء عليه بين أهل السماء والأرض. Donc là il cite le fait que comme ce savant il essaie aussi en montrant le droit chemin aux autres, il est en train de revivifier cette religion, le faire montrer les noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla il lui donne la récompense de faire montrer à ses anges le mérite qu'il a. يكون تنويعا به وتشريفا له وإظهارا لثناء عليه بين أهل السماء والأرض. Il fait que ceux qui habitent les cieux et la terre font son éloge. Après, Ibn Qayyim cite un autre hadith connu. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. Celui qui suit un chemin, c'est ça, où il veut apprendre une science, Allah Azza wa Jalla lui facilite un chemin vers le paradis. C'est la bonne traduction. Hein? T'as mieux. Alors, quand tu es en face de moi, comme je sais que tu traduis bien, hein, j'aime bien vérifier les mots et essayer de trouver la meilleure traduction la plus proche. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَشْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. Donc les anges, ils posent leurs ailes, c'est ça le tadawaj jnihata. Ils abaissent, paraklof, ils abaissent leurs ailes à celui qui essaie d'apprendre la science. Donc ça, c'est un mérite, pas pour seulement pour le savant, mais pour aussi celui qui cherche à apprendre la science, celui qui fait des efforts dans l'apprentissage de la science, celui qui met de son temps pour aller assister au cours ou pour écouter un dars ou pour accumuler une science important dans la religion. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. Et le savant Et tous ceux qui sont dans les cieux et la terre demandent la miséricorde, yastaghfir, c'est ça, demande le pardon. Miséricorde aux savants. Hatta al-hitan fil bahr, même les poissons dans l'eau. Wa fadlu al-alimi al-abid ka fadli al-qamari ala sa'ir al-kawakib. Et le mérite du savant sur l'adorateur, simple, ce savant il peut être un adorateur. Mais le savant, il a la science en plus à l'adoration. Donc cette science, quand il l'a, le mérite de la science, il est plus fort que le mérite de l'adoration, dans le sens que c'est l'attribut qui paraît le plus fort. Ça fait partie de l'adoration, hein, la science. Et quand on dit « Fulan alim », dès qu'il a cette science, c'est l'attribut qu'on lui donne en premier. Et quand on parle d'un abid, c'est qu'il n'a pas, c'est que l'attribut de la science n'est pas aussi fort en lui, parce que s'il a l'attribut de la science, les gens ils vont dire alim. Hein, quand quelqu'un il porte en lui l'attribut, le fait qu'il pratique bien la religion, hein, dans la pratique, et il porte la science, les gens ils appellent plus par la science. Parce que comme il n'y en a pas, il n'y a pas beaucoup de savants, donc celui qui a cette qualité, la science dans le din, les gens ils vont l'appeler par cette qualité, même si c'est en même temps un bon adorateur. Mais s'il trouve, si dans l'Ummah il y a un bon adorateur mais qui n'a pas de science, les gens ils vont lui donner, ils disent voilà, ça c'est un bon adorateur, abid. Et donc les deux, entre celui qui porte la science, il peut être, c'est-à-dire un bon adorateur en même temps. C'est ce qui est... Donc au fadl al-alim et al-abid, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'avoir de la science et d'être un bon adorateur d'Allah Azza wa Jal. Et le mérite de l'homme de science sur celui qui est adorateur d'Allah Azza wa Jal, qui est fort dans la pratique de l'adoration, c'est comme le mérite qu'a la lune sur les autres étoiles, sur l'ensemble des étoiles. إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Donc les savants sont les héritiers du prophète, c'est-à-dire que nul n'a le droit de parler dans cette religion s'il n'a pas la science qui est héritée du prophète. Et là ça écarte les philosophes, les penseurs, toutes ces notions-là. On prend notre religion des savants qui maîtrisent le Coran et la Sunna et qui la prennent comme héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un héritage qui est continu depuis le temps du prophète, et donc c'est une continuité qu'on doit assurer de nos jours jusqu'au temps du prophète. C'est pour ça qu'on étudie les livres des savants de nos pieux prédécesseurs. Donc le hadith, kadhalik hasan. Il y a un autre qu'on ne cite pas parce qu'il y a une polémique sur ça, sur le fait qu'il soit acceptable ou pas, mais on se contente de ce qu'on a cité dans ce premier hadith qui est dans le cadre des hadiths acceptés. والطريق التي نعم ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه وهو يدل على المحبة والتدعيم. Donc il dit que les anges abaissent, c'est ça, leurs ailes تواضعا. تواضع c'est humilité, quelqu'un de humilité, وتوقيرا, de respecter يعني ce qu'il fait par respect, par tawqir, wa ikramen, c'est un peu donner mérite à lima yahmiluhu min mirat ibn Bouha, parce qu'il porte l'héritage qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça monte al mahabba wa ta'dim. Al mahabba c'est l'amour, ta'dim c'est l'adama. C'est quoi la traduction en français? Wa al-ali wa al-azim, akhir surat al-kahf. Là, surat al-kahf, akhir ayat al-kursi, puis tout. Je suis toujours akhir surat al-kahf parce qu'il y a les ayats qui montrent les conditions de l'azanger, il accepte l'action, hein, la sincérité de celui. Donc, akhir surat al-kahf, et wa al-ali wa al-azim. Donc, la traduction de ça, je ne savais pas le. glorification, glorifié. فمن محبة الملائكة له وتعظيمه, c'est le fait qu'ils aient les anges l'aiment pour ce qu'il a, qu'il porte comme science, et le fait qu'il glorifie son action, elle abaisse ses ailes pour cela. لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته, parce qu'il est, qu'est-ce qu'il demande, la chose avec laquelle il y a la vie de l'alam, du monde, et son salut. Celui qui suit le droit chemin, celui qui suit le chemin de cette religion, il est dans le chemin d'essayer de sauver ce monde. Hein, ceux qui veulent sauver ce monde, pour sauver ce monde, il ne faut pas juste être écologique. Hein. Et il faut être dans le plus important, c'est de savoir le chemin qu'on a à suivre. Hein, le salut de ce monde, c'est dans le chemin qu'a tracé Allah Azza wa Jal, c'est dans Tawhid. Le fait d'unifier Allah Azza wa Jal, le fait de c'est ça, le Tawhid, c'est unifier, c'est ça le fait d'adorer Allah Azza wa Jal comme il a voulu, comme il le veut, comme il se doit. Et tant qu'on suit d'autres chemins, même si on fait attention à ce qu'on jette comme plastique, comme verre, etc., c'est pas ça qui va sauver le monde. Si on fait les péchés sont la source des malheurs de ce monde. Et le plus grand des péchés, c'est l'association. Dès qu'il y a une nation qui montre des signes ostentatoires de fait de ne pas suivre le chemin de l'Allah Azzawajal, hein, de l'offense à ce que l'Allah Azzawajal a mis comme règle de bonne vie, et ni l'Allah Azzawajal le renvoie, comme il dit dans le hadith, les maux qu'ils n'ont pas connus avant. Les maladies qu'ils n'ont pas connues avant, les maladies structurelles qui leur envoient les grands sinistres, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit tout ce que là, les péchés qu'on fait, il y a une partie qu'on paye au jugement dernier, une partie qu'on paye au dunya. Hein, comme les bonnes actions qu'on fait, il y a une rétribution qu'on aura, inch'Allah, au jugement dernier, hein, aussi une partie de la rétribution qu'on trouve au dunya. Les deux. لأنه طالب بحياة العالم ونجاته ففيه شبه من الملائكة وبينه وبينهم تناسب. Donc celui qui cherche la science de Shara, il a une ressemblance avec les anges. Et entre lui et eux, il y a une similitude. فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم. Les anges sont les créatures qui sont les plus utiles à Bani Adam, hein, qui cherchent le bien à l'homme. Azzawajal leur a donné cette fonction. Cette révélation elle est venue. Azzawajal, il a mis Jibril. C'est ça qui fait descendre cette révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a avec nous des anges qui nous défendent à chaque jour. Du monde qu'on ne connaît pas. Nous, on ne connaît pas le djinn. Mais Azzawajal l'a fait qu'avec nous, il y a des anges qui nous protègent. C'est un monde qu'on ne connaît pas. Et à partir du moment où les insanes, ils tombent dans des péchés ou ils rentrent dans certaines choses, cette protection peut s'enlever, les insanes, ils peuvent être atteints par, ou si Allah Azza wa Jal veut, que ce soit une épreuve pour des gens, pour des familles. Il y a des gens qui sont qui vivent yani, en dehors des règles de la religion, dans leur dirige de dunya, jusqu'au jour où ils ont un malade. Dès qu'ils ont un malade ou qu'ils n'arrivent pas, ils se retournent le dîn. Allez, on va aller à la mosquée, j'ai mon fils qui est malade, d'orbougine, etc. On n'arrive pas, on est allé voir les professeurs, ils se retournent vers la religion, et quand ils n'arrivent pas à trouver de solution, et ça c'est des signes, l'Azza wa Jal, il envoie sur les gens, il y a de telles épreuves pour qu'ils leur ouvrent la porte vers, c'est des portes pour qu'ils reviennent vers le droit chemin. Si tu es dans un système qui est parfait, tu devrais trouver réponse à tout phénomène qui t'entoure. Comment se fait-il que tu es dans un domaine que tu matérialises et que tu maîtrises toute la science, tu comprends tout d'une façon rationnelle, et après tu as des phénomènes devant toi que tu n'arrives pas à expliquer. Ça veut dire que le système dans lequel tu es n'est pas parfait. Et tout système dans lequel on vit, à partir du moment où on dit qu'on suit le droit chemin, qu'on suit le chemin, que c'est Dieu qui est le créateur, on est dans un système qui est parfait. Il n'y a pas un phénomène qu'on ne peut pas comprendre. Nous, on ne vit pas dans le délire de voir des ovnis, il y a des gens qui viennent de Mars ou je ne sais pas quoi. Notre système, nous, il est complet. on marche, on sait ce qui va arriver, ce qui peut arriver. Tout phénomène, il a une explication. Non, il n'y a pas un phénomène qui sort du contexte de la religion. Il y en a qui on peut pas expliquer et qui est contraire aux règles et qui y a dans le général du Coran, parce que c'est Allah Azzawajal qui a créé ce monde. Et à travers son livre, on voit le chemin qu'il a tracé est un chemin qui est parfait, il ne comporte pas de failles, comme les failles connaissent ceux qui disent que ce monde il est matériel et ils sont devant des phénomènes. On est dans un pays qui est soi-disant rationnel et matériel, et malgré ça, le taux de sorciers qui existent, le taux de gens qui prétendent connaître l'avenir ou prédire est important. Et normalement, ça ne marche pas avec. C'est un. La France n'accepte pas cette pratique de notre religion, mais elle accepte des pratiques qui sont contraires aux bases, au fondement même de sa croyance. C'est-à-dire que voilà, ils disent que ce monde est matériel, qu'ils font ça, cela, c'est la séparation de. C'est-à-dire que la religion n'a pas. Mais bon, c'est-à-dire qu'on autorise à des gens, c'est-à-dire des choses qui sont délicates. Comment tu peux connaître toi l'avenir? Si tu connais l'avenir, eh bien, vas-y, va jouer au loto. Tu vas gagner 10 millions. Pourquoi tu te casses la tête à dire l'avenir à certains pour son rôle, alors que tu peux jouer toi-même? Et puis si tu connais, soi-disant, tu as des dents pour connaître l'avenir, ben mets tes dents et casse les mêmes pour avoir un bon chiffre de loto et tu es tranquille. Enfin, ça paraît évident pour certains, mais bon, il y a toujours des gens qui croient parce qu'on a cette aspiration, ce côté de l'âme qui est en nous et qui est prêt à accepter choses qui viennent concernant ce monde. Et ça, il a cette faiblesse. Et on connaît, c'est-à-dire il y a des grands hommes politiques qui croient à cela. Bon, il y en a certains qui ont même pratiqué la polygamie sans qu'on leur... quand ils sont morts, et ça ne leur a pas posé de problème. C'est pas d'aller trop loin, sinon on sait jamais. On dit la liberté d'expression, mais des fois on peut l'interpréter autrement. Rabbi ufkna wa yakum rafir. Wa yahrisuna ala masalih al-ibadi adhafa hirsihi ala maslahati nafsihi. Bal yuriduna lahu min khayri dunya wal akhira ma la yuridu al-abdu wa la yakhturu lahu bibal kama qala ba'du tabi'in. Wajadna al-malaikata ansaha khalqi Allahi li'ibadihi wa wajadna ash-shayatin ghash al-khalqi lil-ibad. Donc, c'est-à-dire les anges sont la création. Parmi les créatures d'Allah Azza wa Jalla, ceux qui sont les plus bénéfiques à l'homme, et les shayatines sont à l'inverse. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. On voit dans ce verset le fait que les anges ils font dua. Et un doigt profond pour, et fort, pour les gens pieux. Pour que Allah Azzawajal les maintienne sur le droit chemin et qu'ils éloignent d'eux toute mauvaise chose. فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه حتى تضع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظيما. Donc celui qui cherche la science, les anges, ils aiment bien, ils rentrent dans le fait que le malaïka vont l'aimer et ils vont, ils vont abaisser leurs ailes. Redan, c'est-à-dire qu'ils ont remerciement à ce qu'il fait. وقال أبو حاتم الرازي سمعت ابن أبي أويس يقول سمعت مالك بن أنس يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع أجنحتها يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي. Donc, ça c'est une explication de l'imam Malik concernant le mot que les anges ils abaissent leur zèle pour en considération à celui qui cherche la science. Et l'imam Malik, il dit, Tabsutuha, il dit, la baisse, en faisant du'a, pour, du'a, c'est l'invocation. Ils invoquent Allah Azzawajal en faisant dua à celui qui cherche la science en contrepartie du fait des mains. Hein, parce que l'homme, il a ses mains, et dans cette imposition dua, on élève les mains, on les élève très haut, hein, sur sallallahu alayhi wa sallam, il élève ses mains jusqu'à ce que apparaissaient ses, on les appelle, les aisselles. Voilà. En fait, d'élever les mains, en fait, dua, à temps en temps, ça fait partie des règles de dua. Hein. Bah, le fait de les élever à chaque fois, derrière chaque prière, ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Hein, c'est pas le fait d'élever les mains qui pose problème. C'est le fait d'élever les mains à chaque fois derrière la prière. C'est cet attribut, hein, qui pose problème. C'est un certain, tu lui dis, il te voit des fois élever les mains pour le droit, il te dit, comment ça, tu as dit, c'est une bida. Non, mais j'ai pas dit, les ulama, ils n'ont pas dit, c'est une bida de lever les mains pour faire le droit. Ils ont dit, c'est une bida de le faire tout le temps derrière la prière. C'est devenu une habitude, surtout le fait de le faire en groupe. Hein, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait sa prière, à la fin, il ne faisait pas comme ça. Et nous, on doit suivre la sunna du prophète. Ce qu'il n'a pas fait, on n'a pas à faire mieux que lui. On ne peut pas faire mieux que lui. Donc, on ne fait pas ce qu'il n'a pas fait. Doua, on devrait faire les jihad, de le faire surtout quand on est prosterné. Quand on a la tête, c'est ça. En pleine position de prosternation, c'est là où on met le mieux de ce qu'on a dans notre corps, c'est-à-dire notre visage, par terre pour Allah Azza wa Jal, hein, en signe de soumission. Et c'est là où on doit faire le doua, parce que c'est la position, comme a dit le professeur Hassan, c'est là où on est le plus proche de Allah Azza wa Jal. Il y en a qui, durant ce moment-là, ne font pas de doua. Mais après sa lettre, il s'active à faire le doua, alors que c'est là où le doua est le plus proche et il est plus censé être accepté, c'est quand on est en pleine prosternation. Là, il faut l'insan, il fait les chiens de faire le doua pour les biens de dunya ou l'akhira. Et il cite le Ibn Qayyim, une histoire de quelqu'un qui a osé dire, bon, s'il est de quelqu'un de Al-Bida, qui, lorsqu'il a entendu ce hadith, il a dit, je vais porter un soulier, c'est ça, avec des crampons en acier, hein, en venant au cours demain, comme ça je vais percer les ailes des anges. Et il y a toujours des gens qui sont... Ça n'existe pas qu'en France. Ça a existé bien avant, les gens qui sont contre la sunna, ou c'est ceux qui... c'est en français. Ils se moquent de la sunna. La sunna, ils avaient toujours des gens qui étaient en face. C'est-à-dire qui... Bon, il était parmi les Rajwadag qui cite l'exemple de Oumil Mu'tazila. Parmi les Mu'tazilites, il y en a qui refutent le... Il a dit, c'est-à-dire que pour le Mu'tazila, c'est-à-dire eux, une des règles principales chez eux, c'est que c'est la raison qui comprend le hadith, hein, c'est l'aql qui comprend le naql. Donc, quand il y a contradiction entre l'aql et le naql, ils priorisent l'aql. Hein, c'est-à-dire que le Mu'tazila, ils ont dit que c'est avec notre raison, l'aql, hein, notre cerveau, hein, qui est source de raison, qu'on comprend la révélation. Et à partir du moment où il y a contradiction entre notre raison et la révélation, entre la raison et la révélation, on fait avancer la raison parce que c'est elle qui comprend la révélation. C'est un beau raisonnement. Mais l'erreur qu'il y a dans ce raisonnement, c'est lorsqu'ils disent quand il y a contradiction entre la raison. Quelle raison? Il n'y a pas une raison qui est définie, Al-Bashar. La raison humaine, c'est une entité, si on peut dire, qui a une définition relative. Parce que la raison du savant n'est pas comme la raison de l'ensemble d'Annes. La raison qu'avait le consensus des gens au 7e ou 8e siècle n'est pas la même aujourd'hui. C'est-à-dire, la raison de certains 7e siècle, tu lui dis, voilà, aujourd'hui je suis à Paris, demain je peux être sur Alger, et il va rigoler, mais tu... Même si c'est quelqu'un de sensé, Yanni. Même si c'est quelqu'un de très intelligent. Enfin, tu me racontes une blague là, ou tu veux me dire quoi? Comment ça? Aujourd'hui t'es là et demain t'es... Ça, ils ont pu ne pas l'accepter. Ou peut-être pour certains, à ce moment-là, le fait de leur dire que certaines vérités qu'on connaît aujourd'hui scientifiquement, leur raison ne peut pas l'accepter. La raison humaine, déjà, elle a eu du mal à accepter certaines théories aujourd'hui, etc. Donc cette raison, elle est relative. quand il y a eu la théorie de la relativité, des grands scientifiques, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le temps, c'est quelque chose d'invariable, la masse, c'est quelque chose d'invariable. Comment se fait-il qu'on peut, on peut pas accepter ces choses-là? Alors que l'Azza wa Jalla a bien dit, donc, cette relativité du temps, elle n'était pas, elle, on peut pas nous, il y a des choses qui peuvent dépasser notre raison. Donc, quand tu parles de raison, ou de logique, c'est la raison absolue qui ne peut pas être contre la révélation. C'est ta raison qui est relative, qui est contre la révélation. Et à partir du moment où on a un texte de la révélation, c'est un texte qui vient de celui qui a les attributs absolus. Voilà, c'est-à-dire les plus parfaits. Et comme nous, on est dans le sens de l'imparfait, on ne peut pas contrer, on a un suivi. Parce que sinon, on est en train d'adorer, notre raison n'est pas en train d'adorer Allah Azza wa Jalla. Ce que dit ce Mu'tazilite, quand il a entendu ce hadith, il dit les anges, c'est quoi? Ces anges qui ont des ailes, et 700 ailes, et il a dit, ça c'est, je ne l'accepte pas, ma raison ne l'accepte pas. Il n'accepte que ce qu'il voit, ou que ce qu'il, sa logique relative. Et donc il a dit, demain je vais prendre un, je vais me chausser avec quelque chose qui comporte des crampons en acier, comme ça je vais faire mal aux ailes des anges, soi-disant, et pour se moquer de ceux qui ramènent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui le prennent en tant que tel, hein, sami'na ou atana. C'est quelque chose qui dépasse notre logique, qu'on ne connaît pas, mais nous, on suit Allah Azza wa Jalla. Pas du moment où Allah Azza wa Jalla nous a dit, le hadith est sahih, on le suit. Notre raison, elle est là pour nous montrer qui on suit. Pas du moment où on nous a montré que ça vient d'Allah Azza wa Jalla, que c'est le prophète, après on suit. C'est comme quand tu vas chez le toubib, chez le docteur, ta raison, elle est là pour te monter le chemin, pour dire, voilà, il ne faut pas aller, quand t'as mal dans ton ventre, il ne faut pas aller voir le mécanicien, parce que tu risques de mourir. Il faut aller voir le médecin. Voilà, ta raison, elle est là. Mais à partir du moment où tu vas voir le médecin, tu ne vas pas te substituer au médecin parce que tu as une raison. Quand le médecin, il va te dire, voilà, tu es malade, il faut que tu fasses ça, même s'il t'impose d'aller tout de suite aux urgences, sinon tu vas mourir, il t'impose d'ouvrir ton ventre, etc., tu suis. Même si ta raison, elle ne comprend pas. Mais c'est le fait que tu es allé chez le médecin, voilà qui te... La raison, elle est là. C'est-à-dire qu'elle a sa part, mais il faut lui donner sa part là où il faut. Il ne faut pas que ça devienne une référence, yani. Dans le fait du suivi. Nous, c'est-à-dire Al-Sunna, il ne refute pas la raison. Mais il l'accepte dans son contexte. Hein, dans ses limites. Il ne faut pas qu'elle soit... Il ne faut pas que tu dises que la raison, là, quand il y a contradiction entre la hadith et la raison, je ne vais pas... Je refute le hadith comme on dit certains. Yani. On est aujourd'hui, hein, ils ont refuté yani, certains hadiths parce qu'apparemment pour eux, ce n'est pas raisonnable. Pourquoi Moussa, le prophète, il a frappé l'ange, il lui a fait l'œil en. C'est ça. Il lui a approché, c'est ça, on dit. Crevé son œil. Ah, j'ai trouvé un frère par l'œil. Il me dit ouais, j'ai écouté un Jumu'a, le frère, c'est hadith, mais ce hadith, c'est bizarre. Ce hadith, normalement, il ne devrait pas citer, et ça ne marche pas avec la raison. Je lui ai dit, ce hadith, il est dans Sahih al-Bukhari, mon frère. Hein? Et pourtant, c'était quelqu'un, soi-disant, qui considérait comme intellectuel. C'est bizarre que ces gens-là ne connaissent pas les hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari, en plus. Dans les références, il n'y en a plus. Et je lui ai dit, le sens qu'on dit, Rulana, Allah Azza wa Jal, il a dit, les anges, ils peuvent se donner l'image humaine. Et que le fait que son œil soit courbé pour l'ange, ce n'est pas la même chose que ce soit pour l'être humain. Il reprend ses... C'est que Allah Azza wa Jal, il a fait que ces anges, pour les prophètes, le jour où ils vont mourir, leur envoie un ange pour leur annoncer la mort. Et Moussa alayhi salam, c'est-à-dire, il était chez lui, et il avait un homme qui était étranger dans sa maison, donc il a, parce que si tu regardes, si tu te permets de regarder dans la maison d'un frère sans son autorisation, ben il est autorisé à te crever ton œil, comme le dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, les charia, ils se confortent. Donc, lui, il a pensé que c'était un étranger qui est rentré pour venir regarder ce qu'il y a dedans. Donc, il lui a crevé l'œil. L'ange, il n'avait pas d'ordre de faire autre chose que de demander l'autorisation à Moussa d'accepter le fait de mourir. Et Moussa n'avait pas compris que c'était l'ange. Voilà. Les ulama, ils ont donné. Et après, quand il est revenu, Moussa, il a préféré. Mourir. Donc, ceux qui rentrent avec le raison dans cet hadith, des fois, ils le refutent. Ils ont dit ce hadith, on ne peut pas l'accepter. Comment tu ne peux pas l'accepter? Les puits précédés, les ulama d'avant, ils l'ont accepté. Pourquoi toi, tu ne l'acceptes pas? Ils ont donné l'explication qu'il faut. Ce n'est pas l'explication que tu penses. Pourquoi tu fais rentrer trop ta raison là où il ne faut pas? Et je dis, si tu peux faire marcher ta raison juste pour tes intérêts, ta dunya, et que tu nous montres que tu deviens très riche, ou que tu puisses résoudre tes problèmes personnels, tes problèmes familiaux, mashallah. Déjà toi, avec cette raison brillante avec laquelle tu essaies de contrer la révélation, tu n'arrives pas à être brillant dans le dunya. Et ça, c'est le domaine de ta raison, normalement. Tu n'es pas assez performant dans ta vie d'ici-bas, et tu veux contrer une révélation qui vient d'Allah Azza wa Jal, celui qui a créé les cieux et les terres. Rabbi wafqna wa iyyakum al khair. Et donc celui qui a dit ça, il s'est vraiment chaussé de quelque chose qui comportait des crampons en acier. Et le père Sahadi, il a dit, voilà, il a dit cet homme, irfa'u arjulakum an ajnihati al-mala'ika la taksiruha, quel moustazi. Il était en train de rigoler de Sunna qui suivait le hadith. Il disait, ne marchez pas trop fort, ne mettez pas vos pieds trop fort, vous risquez de casser les ailes des mala'ika. Il a dit, et à un certain moment, il ne pouvait plus bouger de l'endroit où il était. Parce que l'Azawajal l'a fait de telle sorte que c'est Jaffat Rijla, c'est-à-dire ses pieds se sont asséchés. Et il est tombé. Donc ça, c'est une histoire qui est rapportée. Et ça montre que les gens qui disent ça, Sunna, ceux qui sont Sunna, ça existe, il y en a de tout temps. Ceux qui portent le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam ont toujours des gens qui sont autour d'eux, qui se moquent du hadith, etc. Que nous, on doit suivre notre révélation, quel que soit ce que pensent les autres. Et donc, quand on voit dans ce hadith que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils disent même le poisson dans l'eau, et même la fourmi dans son fijouhriya. Le johar de la fourmi, en français, c'est son gîte. C'est quoi le... Le johar, c'est le gîte, c'est ça. Et là où elle habite, on voit que les bienfaits de cette science ne vont pas juste dans le fait qu'elle assure les intérêts d'ordre religieux, mais aussi qu'elle assure les intérêts d'ordre matériel. Le fait qu'on soit bien dans le din, ça veut dire qu'on est bien dans le dunya. Quand on applique bien notre religion, on atteint les objectifs qui sont des objectifs religieux, on atteint aussi des objectifs qui sont des objectifs de bienfaits pour notre nature, pour l'endroit où on vit. C'est la baraka qui nous entoure, c'est le rahma, c'est quelque chose qui touche tellement que cette importance, l'importance de cette science, l'achara, elle est ressentie par les poissons et par la fourmi. Hein? Et qui demandent la miséricorde pour l'ilm parce qu'ils savent que la propagation de cette science, c'est un bienfait pour elle. Et le fait que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il donne l'exemple du savant, et sur ce, inchallah, parce que je vois la fatigue de l'écoute autour de moi, c'est vrai que c'est pas facile. J'essaie de finir sur ce point-là. Il dit que l'importance, le rang de celui qui a la science par rapport à l'arabie, c'est comme, il a dit, la lune. Et le fait que Rasoul sallam a choisi la lune, c'est pour montrer que entre les savants, il y a des degrés, il y a des grades. C'est comme la lune lorsqu'elle apparaît. Des fois, c'est juste un croissant. Et après, des fois, c'est la pleine lune. Ça montre que ceux qui possèdent la science, les savants, il y a des degrés entre eux. Il y a qui a une science comme la lune quand elle est comme un croissant. Hein? Donc, et il y en a qui portent une science comme une science qui illumine. Ça fait que dans le monde des savants, il y a des degrés. Hein? Il a dit donc ce hadith, il montre que le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un choix qui est judicieux. Ibn Qayyim, il dit cela dans le sens où il a donné l'exemple de la lune. Et la lune dans tous ses états, elle est mieux que toutes les étoiles qui l'entourent. Même si elle est dans la phase où c'est un croissant. Alors qu'elle n'apparaît plus. Et son effet sur la Terre, il est bénéfique. Hein, que ce soit par sa lumière, que ce soit par ses autres effets sur la Terre. Et dans cela, ça montre qu'il y a une différence entre le degré du savant. Et aussi le fait qu'il a montré que la science, son équivalent, c'est la lumière. Et que l'ignorance... Son équivalent, c'est, dans cet exemple, c'est la nuit. C'est-à-dire que le savant, il a l'exemple de la lune dans tous ses états, selon ce qu'il a comme science. L'ubad, c'est comme les autres étoiles. Parce que la lumière qu'il dégage, c'est une lumière qui les entoure eux. Et ils sont des exemples de l'Bachar. Donc ils existent dans le dans cette ce schéma du ciel par rapport à le din, qu'ils ont un rôle dans cette nation. Mais le rôle le plus important, c'est le rôle des savants, c'est comme le ciel, c'est comme l'exemple de la lune dans le ciel avec les étoiles. Je ne sais pas si c'est... وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب. Donc le mérite qu'il y a l'homme de science, la lumière qui sort de l'homme de science, c'est comme la lumière qui vient de la lune par rapport à la lumière qui vient des autres étoiles, qui représente la lumière des adorateurs. Et il dit aussi que cette religion, c'est comme le ciel, et donc sa beauté, elle est représentée par ses savants et par les gens qui la pratiquent, ses adorateurs. Et à partir du moment où ceux-là disparaissent, le monde il est dans l'obscurité. فالدين قوامه وزينته وأمانته بعلمائه وعباده فإذا ذهب علماؤه وعباده ذهب الدين كما أن السماء أمانتها وزينتها بقمرها وكواكبها فإذا خسف قمرها وانتثرت كواكبها أتاها ما توعدوا وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب. نعم. Et là, Ibn Qayyim se pose une dernière question. Il se dit, certains se posent la question, pourquoi le Rasoul n'a pas donné l'exemple du soleil plutôt que de la lune? Pourquoi? On vous fait participer pour que vous n'ayez pas trop de... Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une idée? Il dit, « فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ وَقَعَ تَشْبِهُ الْعَالِمِ بِالْقَمَرِ دُونَ الشَّمْسِ » وهي أعظم نورا يا لا بلوس دو ليمير. بارك الله فيك. إحداهما يدي فيها فائدتان يا دو شوز يدي. إحداهما أن نور القمر لما كان مستفادا من غيره كان تشبيه العالم الذي نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس. دونك إلا دي كوم لو سافون سا سورس دو سيونس إلي دو لا ريفيلاسيون. إي لا ريفيلاسيون سي تيل كي بو ريبريزونتي la lumière forte qui est le soleil. Et l'alim, il prend sa lumière, ça veut dire que là, c'est-à-dire que la source de la lumière, c'est le soleil. Le soleil, c'est un sirage, c'est une source de lumière. La lune, c'est non, c'est-à-dire qu'elle reflète la lumière du soleil. C'est une vérité connue aujourd'hui. Donc le fait est tel que l'alim, il prend, comme a dit notre frère, la science de la révélation qui, elle, a la plus unique degré du soleil. C'est pour ça que le Sallam, il a pris l'exemple, c'est une des raisons, que l'exemple avec la lune, c'est mieux que le soleil. Et deuxièmement, il a dit que le soleil, il a une stature qui est stable, qu'elle n'a pas des états comme la lune. Et donc, le fait de différencier entre elles, voir que parmi les gens de science, il y a une différence qui peut être grande entre un savant et un autre, l'exemple le plus proche, c'est le plus approprié, c'est la Lune. Parce que la Lune, elle a des états où elle a peu de lumière jusqu'à ce qu'elle a beaucoup de lumière. C'est comme ça les savants. Il y en a des savants qui ont un certain degré et d'autres qui ont un degré bien, bien, bien plus élevé et qui ont leur impact sur le cheminement de la science et sur la nation qui est bien plus grand que d'autres. ولا تفاوت في الإضاءة وما القمر فإنه يقل نوره ويكثر ويمتلئ وينقص كما أن العلماء في العلم على مراتبهم من كثرته وقلته فيتفضل كل منهم في علمه بحسب كثرته وقلته وظهوره وخفائه كما يكون القمر كذلك. Et le fait que on donne l'exemple des ulama bin nujum dans cet hadith, le hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que mes compagnons sont comme les étoiles est un hadith daif, son sens être juste, mais le terme, le prophète ne l'a pas dit. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont justes que le prophète n'a pas dites. Mais il a dit ce qui est plus juste que cela. Mais toute chose juste, le prophète ne l'a pas dit. Ce n'est pas parce que c'est juste, c'est une hikmah que le prophète doit la dire obligatoirement. S'il ne l'a pas dit, on dit qu'il ne l'a pas dit. Ça veut dire qu'on est contre cette phrase ou ce qu'on est en train de citer. Et comme les étoiles, les envoie des fois les étoiles filantes là pour contrer les shayatines qui essaient de ramener l'information du ciel, les savants sont aussi qui contrent les choubouettes des shayatines qui essaient de faire des dégâts parmi le bachar. C'est l'exemple qu'il y a entre eux. Et sans les savants, l'année de cette religion disparaît. S'il n'y a pas les savants, il y a les mecs de l'ulama, dîna d'ayrou. Il y a des choses encore à dire sur Hadith, mais on a un peu dépassé le temps, on essaiera de continuer, Inch'Allah. La prochaine fois, Barakallahu Fikoum, s'il n'y a pas de questions, Inch'Allah. Non. Non. Oui. Le mot minhaj. Cheminement, c'est ça, là. Voir, oui. Sur les minages, c'est son sens en arabe. Ça veut dire la méthodologie qu'on a à suivre dans notre religion. Et le minage, il est caractérisé par des axes qui sont des axes importants et qui peuvent nous différencier. C'est des caractéristiques qui nous permettent de différencier les gens qui sont sur le droit chemin par rapport à ceux qui dévient. Parce que quand on dit, par exemple, un tel, il est parmi le khawarij. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il est parmi les Khawarij? C'est qu'il adhère à un axe important de la méthodologie des Khawarij. Hein? Par exemple, il dit que tous les gouverneurs des mondes musulmans aujourd'hui sont des koufars. Tous les gouverneurs. Hein? C'est pas pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla dit: وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Oui, kafar. Même un seul, à partir de ce, on se prononce ce verset, à partir du moment où on n'applique pas la charia, on est des koufars, par exemple. Ça, on dit qu'il est en train de suivre le cheminement, et n'est de khawarij. Le fait aussi de dire, voilà, tu lui dis, les ulama sunna, ils ont dit ça, et tu dis, moi, je ne suis pas tellement convaincu. Il a quel problème là? Il a un problème dans la particularité de la question qui a été soulevée. Hein, auquel on est en train de discuter, on est en train de lui dire que les savants ils ont dit, ou il a un problème de méthodologie. Tu m'as compris? Là c'est un problème de méthodologie. Là c'est un problème important, parce que là c'est pas l'impact de cela, c'est pas sur une question. C'est un axe important dans le sens qu'il ne respecte pas Oulama Salaf. Il dit que l'école qui est venue après la première école des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheminement des salaf, il est plus aslam en français, c'est plus comment le terme le plus proche, c'est plus sain. Hein? Et le cheminement de ceux qui sont venus après salaf, il est plus sage et plus il a plus de science et plus de sagesse. Et ça c'est faux. On ne peut pas être plus sage et avoir plus de science que le cheminement où vous étiez salaf salaf. Donc, quand on parle de ménage, c'est un chemin, c'est le chemin duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a montré les 73 parties, c'est ça, il a dit, il y a un seul qui va suivre, il y a le chemin qui sera dans le paradis, c'est celle sur laquelle je suis et mes compagnons. Là, il nous a montré un des axes importants qu'on appelle minhaj. Et ceux qui divergent par rapport à ces axes-là, ils sortent du minhaj sahih, du droit chemin. Tu as compris ou j'ai besoin? Un peu. Ah, mashallah, ça va. Je suis arrivé à... C'est-à-dire quand on dit un cheminement, je ne sais pas. La façon avec laquelle tu pratiques ton adoration, tu prends ta science, d'une certaine façon. Il y a une école qui dit que voilà, à partir du moment où il y a un texte qui contredit notre raison, on ne l'apprend pas. Ça rentre dans le ménage ou ça rentre dans quoi? C'est une méthodologie. Alors que pour dire que nous on suit Salaf, on dit on suit le chemin de ceux qui priorisent les textes par rapport à cette raison relative. Vous m'avez compris? Donc là, on a donné une caractéristique au cheminement, à la méthodologie sur laquelle étaient nos pieux prédécesseurs, qui est contredite par cette école qu'on appelle l'école Aqlaniya, hein, ceux qui donnent la priorité de l'Aql, à la raison. Et je ne sais pas ce qu'on peut leur donner comme le Mu'tazila, etc., qui ont contredit un Salaf sur un axe qui est un axe important. Ça, c'est important, c'est pas un détail. Et donc, quand on dit méthodologie de Salaf, ce cheminement sur lequel ils étaient, et ce cheminement, il est caractérisé par des grands. Quand on dit un axe important, c'est le fait de donner l'importance au savant, le fait de revenir, Salaf, quand il se diverse sur une question et jamais il sort de cette question avec deux avis, on ne prend pas, on n'a pas le droit de sortir un troisième, etc. Tout ça, c'est des règles qui nous permettent de suivre le cheminement sur lequel étaient nos pieux prédécesseurs et éviter les déviations sur lesquelles il y en a les autres sectes qui sont sortis. Pour qu'on appelle quelque chose comme étant une secte qui est sortie du droit chemin, c'est qu'elle a une méthodologie qui contredit celle sur laquelle était celle sera. C'est-à-dire que le cheminement dans lequel étaient nos plus prédécesseurs, ce cheminement, il a des caractéristiques qu'on appelle ménage. Je ne sais pas si c'est... Tu n'as peut-être pas trop lu, sur les divergences qu'il y a, et sur les gens, par exemple, sur le fait de... Dans l'aqidah, c'est normal, tu ne peux pas comprendre c'est quoi ménage si tu ne sais pas... Si tu ne connais pas la déviation, les gens qui ont dévié, pourquoi ils ont dévié, et sur quel axe ils ont dévié, c'est difficile de comprendre pourquoi on se dit, c'est comme si on se dit, nous on est musulmans, pourquoi vous nous parlez de suivre un chemin parmi les chemins de ce que suivent les musulmans. Oui, mais il faut connaître ceux qui ont dévié, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Il faut comprendre ce que disent, parce que quand on dit Foulen, il suit Sunna, il suit Al-Sunna, il suit Menaj al-Salaf, il est contre l'Ash'ira. Et bien ça veut dire que l'école Salaf, elle a une méthodologie, elle a des axes qui contredisent ce que suivent l'Ash'ira. L'Ash'ira, quand ils parlent des attributs d'Allah Azzawajal, ils ont des façons avec lesquelles ils renient certains sens de certains attributs, ils n'acceptent que cet attribut, ils n'acceptent pas d'autres. Ils sont dans une méthodologie qui est autre que la méthodologie qu'avait Salaf lorsqu'il traitait les attributs d'Allah Azzawajal. À chaque fois, s'il y a quelqu'un qui contredit le chemin sur lequel étaient les compagnons concernant le façon d'adoration, le façon dans l'aqidah, le façon sur le comportement qu'ils avaient entre eux et les hukams, etc., cela, ça c'est des grands actes qui considèrent le ménage sur lesquels étaient Salaf et sur lesquels tous ceux qui sont venus après ont contredit. Et chaque firqa a contredit un axe important par rapport aux axes qui étaient Salaf. Par exemple, ceux qui disent que les Sophia, ils disent par exemple que nous, les gens pieux, ils les mettent à un degré qui dépasse les limites. Il y en a, ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît le ghaib. Il connaît le futur, il connaît l'invisible. Ça, c'est un peu une exagération dans le fait de donner des attributs au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des attributs divins. Et tout cela, c'est-à-dire nous, on doit suivre Salaf comme ils ont adoré, on adore. Comme ils ont réfléchi, on essaie de réfléchir. Comme ils ont traité certaines questions, on les traite. C'est ça le fait. On suit la méthodologie du Salaf. Et quand on parle de ménage, tous ceux qui sortent de la méthodologie dans laquelle était Salaf Saleh, les trois siècles où étaient nos plus prédécesseurs, c'était dominant, était plus. Donc, ceux qui contredisent, ils viennent avec un... Des innovations, surtout dans des axes importants, on dit ils ne sont pas sur le ménage. Ben sinon, comment tu connais un Ash'ari, ou comment tu connais le Mu'tazila, et comment tu connais les Takfir, comment tu vas les connaître? C'est à travers le ménage qu'il cite. Le Takfir, quand il vient, il détruit la position des savants. Tu lui dis les savants, il te dit oh, les savants de Saoudi, ce n'est pas des savants. S-A-V-N-T, c'est des savants. S-A-V-O-N. C'est eux, ils sont là pour les. Ils citent des termes. Très fort, il détruit l'importance qu'on a, le respect qu'on a vers nos savants. Ça, c'est un axe important. Nous, on a à respecter nos savants. On n'entre pas dans des questions qui nous dépassent. On n'essaie pas de donner une explication politique à l'islam. Je ne sais pas si tu as compris. Un petit peu. Inch'Allah, petit à petit. Rabbi Yufkna wa Yakumar. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك